Merci Tiffen, bon week-end. Et ce qui restera, c'est la parole souveraine. Anna Armatova par Nadezhda Mandelstam et par Lydia Tchoukovskaya. Aujourd'hui donc, écrire sur et avec Armatova.
La compagnie des poètes par Manou Farid.
Et c'est jusqu'à 16h. Aujourd'hui, plusieurs voix donc autour de celle dont Brodsky dit qu'elle fut la conscience de la littérature russe. Celle de Nadezhda Mandelstam, la veuve du poète, le temps d'un bref, tendre, piquant récit de souvenirs écrit à la mort de la poétesse en 1966. Celle de Lydia Tchoukovskaya qui de 1938 à 1966 consigna, nota, se remémora, se récita avec une constance aussi précise, hein, précieuse que désarmante même parfois, ses visites quasi quotidiennes, hein, si l'on accepte une brouille de 10 ans. Visite à la poétesse, donc on pourrait, on va le faire d'ailleurs, encore y ajouter vos deux voix, Sophie Bénèche et Hélène Henry, bonjour, bienvenue à toutes les deux.
Bonjour.
Hélène Henry, traductrice notamment, hein. On vous doit par exemple la traduction de la biographie de Pasternak de Dmitri Bykov, parue chez Fayard, et de Pasternak il sera forcément question, beaucoup question même. Sophie Bénèche, Armatova vous hante depuis longtemps maintenant, depuis assez longtemps, comme éditrice. Comme traductrice. C'est à vous que l'on doit la traduction des souvenirs de Nadezhda Mandelstam hein, et puis l'édition enfin intégrale de ces prodigieux entretiens avec Armatova signée Lydia Tchoukovskaya, tout juste parue aux éditions Le Bruit du Temps. Sincère tendresse, si tant est que la traduction soit juste. Hein, l'un des cinq poèmes d'Armatova mis en musique par Prokofiev en 1916-1917, ici interprété par Galina Vishnevsaya et Rostropovitch, on est en 63, donc un peu plus de 20 ans avant donc ce jour de 10 novembre 1938, où Lydia Tchoukovskaya se présente chez elle, à Leningrad, pour affaire, dit-elle, hein, le début d'une relation particulière, presque 30 ans durant lesquels entre Leningrad, Petrograd même, Moscou, Tashkent, où elles seront toutes les deux évacuées pendant la guerre. Les deux femmes vont parler de littérature, beaucoup, de poésie essentiellement, mais aussi de soucis quotidiens, de santé, de petits potins, hein, du monde de la littérature aussi, de politique un peu, très peu, et on comprend pourquoi. De quelle nature est véritablement ce texte hein, assez prodigieux, hein, il faut bien le dire, et passionnant à lire. Hein. Pour autant, comment est-ce qu'il faut le considérer comme un témoignage, comme un texte littéraire, comme une œuvre, hein. Puis après tout, Lydia Touchkovskaya le désigne quasiment comme tel, hein, à un moment donné. Elle explique un petit peu ce que elle écrit, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler qu'elle était aussi écrivaine et aussi poétesse, et que cet ouvrage l'a fait considérablement disparaître, hein, parce que sa place à elle est vraiment extrêmement discrète. Qu'est-ce que c'est que ce texte, hein?
En fait, c'est Sophie très Benesch. Différent de Souvenir, puisque c'est un journal au jour le jour. Les premières années presque quotidiennes, elle raconte ses visites presque quotidiennes. Les années de 52 à 66, c'est un peu moins fréquent, puisque les deux femmes n'habitent pas dans la même ville, donc elle voit Akhmatova à Moscou quand Akhmatova vient de Leningrad, va faire des séjours à Moscou de plusieurs semaines ou même mois. Et elle a écrit au jour le jour en sachant pas très bien ce qu'elle allait faire de ce journal, bien qu'elle ait dit plus tard que finalement son genre littéraire c'était les souvenirs, c'était écrire sur les gens qu'elle a connus. Elle aurait bien aimé être poétesse, écrire des poèmes, elle en a écrit, mais elle a dit aussi un jour que Akhmatova avait écrit tout ce qu'elle aurait pu écrire, et quand elle avait envie de dire quelque chose, elle trouvait toujours un poème d'Akhmatova qui disait de la manière dont elle aurait voulu le dire. Donc, donc elle a repris son journal et elle l'a un petit peu retravaillé. Il a circulé en samizdat dans les années 70, enfin après la mort d'Akhmatova surtout. Il est arrivé, une partie est arrivée à l'ouest, la partie qui va jusqu'en 1952. Puisque Akhmatova est morte en 66, donc toutes les dernières années, 52 à 66, 53 à 66 ne figuraient pas. Le texte est arrivé clandestinement en Occident. Il a été publié en russe, très rapidement traduit en français en tout cas. Et il est paru donc en 80, je crois.
En 80,
français.
Oui.
Charles Michel.
Oui. Oui. Mais ils ne sont parus que les parties qui vont jusqu'en 1952, compris.
C'est vrai que la forme est très particulière, c'est assez inédit. Hein. Je ne sais pas si on a un autre exemple dans la littérature.
Comme dit l'éditeur dans la quatrième de couverture, il y a les conversations de Goethe avec Eckermann.
Pour le coup, là, c'est vraiment le journal d'une autre, mais en même temps, c'est aussi le sien, c'est-à-dire ça dit aussi quelque chose de son tempérament à elle, hein, de son caractère à elle, de sa façon de lire, de regarder, d'aimer Akhmatova, parce que c'est aussi ça qui transparaît. Et au fil des pages, de ces nombreuses pages, hein, il y en a un millier à peu près, se dessine aussi cette relation très étonnante de dépendance mutuelle, un petit peu, entre ces deux femmes, c'est-à-dire Tchoukovskaya en admiratrice absolue, hein, qui fait vraiment d'elle une sorte de poétesse en majesté. Et puis Akhmatova, qui de son côté la fait venir en permanence, hein, toutes affaires cessantes, hein, décide de ses visites, la convoque même le soir, la nuit, quand elle est malade, immédiatement, toutes affaires cessantes. Donc avec un côté un petit peu tyrannique, mais avec le consentement, ma foi, assez heureux de Lydia Tchoukovskaya, même si elle s'en plaint quand même, hein, régulièrement de son obéissance. Cette obéissance, cette drôle de relation entre les deux, est-ce qu'elle nous renseigne d'abord sur Lydia Tchoukovskaya ou sur le tempérament, à proprement parler, d'Akhmatova?
C'est vrai que ce livre, il est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord pour des détails sur la vie quotidienne d'Akhmatova, des détails sur la vie quotidienne de Lydia Tchoukovskaya, comme vous dites, sur le caractère des deux femmes et leur relation, mais aussi sur la poésie d'Akhmatova, puisque Lydia Tchoukovskaya est une grande connaisseuse de poésie quand même, et une grande amatrice de poésie. Et puis sur la vie quotidienne, sur l'histoire aussi, sur la vie quotidienne en Russie de 38 à 66.
Oui.
Sur leur relation, comme vous savez, on n'est jamais la même personne avec. On est toujours quelqu'un de différent selon l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Et c'est vrai qu'il y a une adoration, un respect, une admiration chez Lydia Tchoukovskaya pour Akhmatova, d'autant plus qu'Akhmatova les dernières années est véritablement la dernière représentante de la poésie du siècle d'argent, enfin de la poésie russe.
Avec Pasternak, hein, parce qu'il meurt.
Oui, enfin, après la mort de Pasternak,
voilà, il meurt vraiment très peu avant elle. Mm-hmm. Alors, sur cette admiration, par exemple, hein, Lydia écrit, alors ça c'est fin 1939, elle écrit « Elle m'a récité encore une fois son poème sur la mort, puis un autre que je n'avais encore jamais entendu. Le miel sauvage a l'odeur de la liberté, la poussière celle d'un rayon de soleil, les lèvres d'une vierge sentent la violette, mais l'or, lui, ne sent rien. Le réséda a l'odeur de l'eau et l'amour sent la pomme, mais nous savons désormais pour toujours que seul le sang a l'odeur du sang. Et de nouveau se concentrer de douleur néanmoins, le sentiment d'un bonheur si grand que mes forces défaillent. Je comprends Boris Pasternak, si cela existe, on peut mourir. On comprend bien quelle est la posture de Lydia face à cette poétesse, Hélène Henry. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce que
vous voulez dire? Non, ce que je voulais dire, c'est que ce livre est étonnant parce que c'est à la fois la chronique d'une relation, une chronique d'une personne, et c'est la chronique aussi de conditions de création. Hein, c'est de la chronique de l'histoire d'une créativité. C'est ce qui fait, me semble-t-il, la grandeur de ce livre, c'est-à-dire qu'il est, il est englobant. Hein, il y a tout en lui.
Alors, quand elle vient, effectivement, pour affaire, comme elle dit, quand elle commence ce journal le 10 novembre 38, hein, quand elle vient frapper à sa porte, on commence vraiment la grande terreur. Hein, donc, il faut peut-être rappeler aussi que ces deux femmes sont dans des situations de souffrance aiguë. Elles vont en traverser beaucoup, mais à ce moment-là, Lydia, elle, n'a plus de nouvelles de son mari. Dont elle va apprendre l'exécution ou l'assassinat quelques temps après. Et puis, Anna Armatova, elle, essaye par tous les moyens de faire libérer son fils.
Qui
vient d'être arrêté. Donc, 10 novembre 1938, hein, c'est là que ça démarre. Qui est-elle en Russie à ce moment-là, en 38, hein, sachant qu'elle a déjà connu une gloire fulgurante alors qu'elle est toute jeune femme, hein, en 1912-13, hein, dans les années 10, hein, l'âge de 22-23 ans, c'était déjà un mythe, Armatova. En 38, quelle est sa place,
hein? Elle se tait depuis
depuis
plus de 10 ans. Depuis 1925, elle n'a rien publié. Depuis qu'une résolution déjà venue d'en haut a décrété qu'elle ne serait plus publiée, elle n'écrit plus et elle recommence à écrire en 1934, puis lentement en 38, et l'épanouissement de cette espèce de renaissance se situera justement dans ces années-là, hein, vers 40. Et c'est intéressant de noter que ces années 25 30, 35 sont aussi les années où Mandelstam, par exemple, se tait et n'écrit pas. C'est le moment où tout bascule en Union soviétique et où des esprits indépendants et de grands artistes comme Akhmatova ou Mandelstam se taisent. Et il est à noter que Pasternak, lui, a d'une certaine façon accompli son devoir envers le régime en écrivant ses grands poèmes épiques, 1905, le lieutenant Schmitt, qu'Akhmatova détestait, parce qu'elle considérait que, mis à part quelques chapitres personnels que Pasternak avait trouvé le moyen d'introduire là-dedans, c'était ce que Pasternak avait écrit de plus mauvais.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce texte singulier, particulier, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on suit la vie quotidienne de ces années-là, notamment au début, qui sont des années absolument terribles, et pour autant, il y a comme une sorte d'ellipse, de trou, puisque pour des raisons de prudence, hein, ce qu'on peut comprendre, les notes qu'elle prend sont des notes qui n'indiquent pas leurs difficultés personnelles, politiques, à toutes les deux, ce qui fait que le texte finalement se resserre très très largement autour des questions littéraires, mais presque, comme le dit elle-même Lydia de façon illégitime, hein, se resserre vraiment sur des discussions autour de la poésie, de la littérature, de la scène littéraire, leurs souvenirs également, enfin surtout ceux d'Armatova, parce que bien sûr c'est surtout Armatova qui parle, hein, ou en tout cas Lydia qui consigne ce qu'elle dit, et ce qu'elle donne à voir aussi, c'est au fond la fabrique de l'œuvre à partir de ces années-là. Le texte est troué de poèmes, hein, de poèmes que Armatova lui dit, de vers anciens, mais aussi de vers nouveaux, qui sont, qu'elle teste d'une certaine façon sur, sur elle, qu'elle lui fait entendre.
Pardon, mais il y a un petit rituel, hein, qui est, en effet, Armatova donne à lire le poème à Lydia Tukhovska, qui avait une mémoire absolument exceptionnelle. Lydia mémorise, et ensuite le texte, le papier est brûlé sur un cendrier, un petit cendrier rond, hein, qui est sur la table d'Anna Armatova, chez elle.
Oui, on a oublié de dire que Lydia Tukhovskaya, un de ses traits particuliers, c'est une mémoire hallucinante. Quand elle est beaucoup plus âgée, elle dit maintenant, je n'arrive plus à retenir. Quand j'entends trois poèmes, je n'arrive à retenir qu'un seul poème à la fois après l'avoir entendu une seule fois. Voilà. Elle le retient immédiatement.
Mais c'est un trait d'époque, hein, puisque il y avait un nombre. Les vers s'apprenaient par cœur. Et il y a l'exemple célèbre de Solzhenitsyn, hein, qui a écrit la première partie du Goulag d'abord en vers, de façon à pouvoir la mémoriser. Ensuite, il l'a enterré sous un pommier. Il l'a sorti ensuite. Donc l'époque exigeait d'une certaine façon cette époque qui était d'avant Gutenberg, hein, comme le dirait Akhmatova.
Qu'est-ce que ce texte, alors justement, nous raconte du processus créatif d'Akhmatova à proprement parler?
Oui, on la voit douter, par exemple, de quand il y a des allitérations qui la gênent dans son vers. Elle demande aux personnes autour d'elle si ça les gêne pas. Oui, on la voit douter, effectivement. On la voit. Changer des vers. Il y a un poème, elle revient sur lequel elle revient, elle change 3, 4, 5 fois les premiers vers. Oui.
Et ce qu'on apprend aussi, c'est que Akhmatova écrivait la nuit quand Lydia Tukhovskaya arrive et elle la trouve défaite. Elle dit bon, jaune, les traits affaissés. C'est parce qu'elle a écrit toute la nuit encore. Et c'est là qu'elle commence en effet toutes les deux à discuter de ce qui a été écrit.
Alors il faut peut-être rappeler, hein, que Armatova ne publiera finalement que 5 recueils, c'est-à-dire 5 recueils librement, hein, c'est-à-dire qu'elle composera elle-même, dont elle composera l'ordre, etc. Et puis tout ce qui sera publié, alors elle sera interdite de publication de façon régulière, avec des petites fenêtres comme ça, où elle croit qu'elle peut respirer, et puis bim, hop, soit le recueil n'est pas publié, soit elle est de nouveau interdite de publication. Enfin, c'est vraiment le chaud et le froid en permanence durant ces années-là. La question ce qui se pose, puisqu'on va parler de la scène littéraire, c'est pourquoi est-elle restée, Armatova?
Oh, par fidélité à sa langue, elle le dit dans un certain nombre de poèmes, par fidélité à son pays, à sa langue, et pour être, comme elle le dit, là où était mon peuple. Hein. Elle dit, je crois que les raisons qui l'ont engagée à rester étaient situées bien au-dessus de la politique, même de la terreur, même de l'horreur. Hein. C'était véritablement une espèce d'absolue certitude que sa place était là. Hein.
Sophie Ménage. Je pense pas, oui, ça lui traversait l'esprit, hein, mais je pense pas qu'elle l'a jamais envisagé
Mandelstam
vraiment. Mandelstam
y a pensé.
Puisqu'on l'a invité plusieurs fois, les amis qui lui ont proposé, elle a toujours dit non.
Elle a toujours dit non.
Quand c'était des gens très proches qui partaient.
C'était résolu une fois pour toutes.
Au quatrain qu'elle a mis en exergue au Requiem, là. Non, je n'étais pas sous un ciel étranger, ni réfugié sous une aile étrangère. J'étais alors aux côtés de mon peuple, là où pour son malheur, mon peuple se trouvait. Voilà. Elle a quand même mis ça en
C'est très clair. Enfin, c'est...
En exergue de Requiem, qui est donc ce cycle de poèmes qu'elle travaille hein, tout du long, en fait, hein, de ce texte de Lydia Chokovskaya. Alors, ce que nous dit le texte aussi, c'est la place de la poésie. Alors, évidemment.
Est-ce que je peux vous lire juste un poème qu'elle a écrit en 19, justement, on parlait du fait qu'elle n'était pas partie, c'est-à-dire de toutes ces années-là où beaucoup de gens ont émigré. En russe, c'est, le premier vers, c'est « Muzabu et les Navsegda ». Et nous avons à jamais oublié, prisonniers dans la ville sauvage, les lacs, les steppes, les cités et les aubes de notre grand pays. Dans un cercle sanglant nuit et jour, nous souffrons de cruelles langueurs. Nul ne voulait nous porter secours pour être demeuré chez nous. Et pour avoir aimé notre cité plus que la liberté ailée, et avoir ainsi préservé son feu, ses eaux et ses palais. Voici venir d'autres temps, le vent de la mort déjà glace le cœur, mais nous aurons pour monument la grande ville sacrée de pierre.
C'est d'autant plus déchirant qu'elle voit partir dans les années 1920-22 des gens qui lui sont extrêmement proches et même sentimentalement proches. Et ensuite, elle verra d'autres qui partent et meurent. Et c'est ce qui sera raconté d'ailleurs dans le poème « Sans héros ».
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Ce que nous dit le texte aussi, hein, c'est la place de la poésie entière, totale, hein, dans la vie d'Armatova, chez l'une comme chez l'autre d'ailleurs, hein, au fond, dans la vie de ces deux femmes, hein, ça parle poésie, ça respire poésie, et la poésie circule hein, par ailleurs, ça parle aussi de la place de la poésie et de la façon dont tous ces poètes, d'une certaine façon, communiquent entre eux, par poèmes interposés, on se lit les uns les autres, même sous le manteau, on se souvient de ceux qui sont morts, ou de ceux qui ont disparu, ou de ceux qui sont partis. On critique, on s'adresse, on dédicace, on se dispute beaucoup. Et alors, ce qui frappe, je voudrais juste lire un petit bout. Alors là, on est en 1940, dans le journal, donc. Et Lydia dit « Chez nous, on aime beaucoup la poésie, ai-je dit ?» Et Armatova répond « Oui ». C'en est étonnant. Nulle part en Europe, il n'en va ainsi. À Paris, quand j'ai raconté à un poète combien de fois étaient réédités chez nous les livres de poésie, il avait du mal à me croire. Les lectures publiques ne sont pas de mise chez eux. Si un artiste célèbre fait des dessins ou des vignettes pour un nouveau recueil de vers, alors ce recueil obtient une chance d'être écoulé rapidement. À cause des dessins, vous vous rendez compte, en Russie, on a toujours aimé la poésie, mais les Français sont essentiellement occupés de peinture. Et c'est vrai qu'à la lecture de ce long texte, on comprend bien aussi la place que, c'est un euphémisme même, la place que prend la poésie dans la vie intellectuelle, au minimum dans la vie intellectuelle soviétique, donc à ce moment-là, au point même que, par exemple, Armatova explique qu'elle n'écrit pas de lettres, elle ne sait pas écrire de lettres, on se demande même si c'est pas aussi lié à sa méfiance de la prose hein, que de ne pas écrire de lettres, et à quel point en fait la poésie est là, et comment elle se diffuse, et comment ça compte, on les voit se réjouir de voir un tapuscrit, puis de voir finalement un livre édité, enfin il y a des moments comme ça très très intense. Comment est-ce que vous expliquez cette place-là particulière, si singulière, si entière de la poésie et puis peut-être cette méfiance à l'égard de la prose.
C'est pas seulement vous parlez des intellectuels, enfin oui, de ce milieu intellectuel, mais il y a aussi deux petits, enfin en particulier deux petites anecdotes dans le livre.
Sophie Benesch.
Elle parle à un moment de quelqu'un qui lui envoie un petit Armatova, qui lui envoie un petit livre en écorce de bouleau sur lequel il a écrit dans les camps. Un poème d'elle. Donc et elle parle aussi à un autre moment d'une correspondance entre deux paysannes qui termine toujours où elle raconte qu'elle était à l'hôpital et qu'elle discutait avec une de ses voisines qui était une paysanne et qui, en apprenant qu'elle était poète, lui avait demandé si elle pouvait pas écrire quelques vers parce qu'elle correspondait avec une de ses amies au village et qu'elle terminait toujours leurs lettres par des vers. Donc Armatova, parle aussi du fait que non seulement dans le monde intellectuel, la poésie tenait la place, mais à la fois dans les camps aussi, dans la...
Et particulièrement à ce moment-là aussi, c'est une façon de maintenir une forme d'authenticité dans un système de mensonges.
Voilà, c'est la parole la plus resserrée, la plus
la juste, parole souveraine,
qui puisse se prononcer sur l'époque et sur le langage en fait. C'est pour ça que la poésie, au moment où le pays est complètement refermée, complètement crispée, d'une certaine façon se réfugie dans le mot poétique. Cela dit, la poésie a toujours été en Russie un moyen de communication privilégié. Et ça n'est pas du tout un hasard si Akhmatova, au moment où elle n'écrit plus de vers, se lance dans des études extrêmement pointues sur Pushkin. C'était aussi une très grande pushkiniste et Pushkin était vivant pour elle. Tous les poètes pour elle sont contemporains. Aussi bien les poètes du XXe siècle que Pushkin, que Baratinsky, que Tchouchev. La poésie en Russie, c'est aussi de la pensée, de la pensée qui reste vivante.
Au point, à propos de Pushkin, au point que Lydia, qu'elles ont une espèce de code, semble-t-il, et que Lydia, quand elle parle du poème Requiem qui est en train de s'écrire, utilise Pushkin.
Oui, c'est-à-dire qu'elles ont un langage codé qu'elle a déchiffré après. Oui, voilà. Quand elle l'a édité dans les années 90, elle a mis des notes pour déchiffrer ce qu'elle disait, mais elle n'osait pas écrire exactement ce dont elle parlait, donc elle me prenait un langage codé. Puis il y a aussi un passage où il y a une amie qui revient de prison, qui a été torturée en prison, et qui dit que quand elle était en prison, elle avait un poème de Pushkin qui le refaisait sans cesse en mémoire sur la prison et la honte. Et Akhmatova. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire, c'est pas seulement dans la poésie d'Akhmatova qu'il se réfugiait, mais dans la poésie de Pushkin dans un siècle passé. Où Akhmatova dit, mais comment Pushkin a pu comprendre ça, puisqu'il n'a pas connu.
Oui, on peut toujours trouver des équivalences, des échos. C'est une vaste chambre d'écho, la poésie russe. Depuis Pushkin à
sans parler
Akhmatova
de Dante.
Voilà, sans parler de l'exil de Dante, qui trouve une résonance dans d'autres exils, intérieurs ou réels.
Soit chez Mandelstam ou chez Akhmatova.
Oui, voilà.
Alors, au fil des pages disparaissent les amis. Mandelstam meurt donc tragiquement en 38. Bientôt suivi du suicide de Tsvetaeva en 41, et puis au fil des pages encore apparaissent finalement la génération d'après, les jeunes poètes, apparaît Solzhenitsyn, vous l'avez déjà évoqué, et puis Brodsky, que Akhmatova va beaucoup soutenir tant qu'elle pourra, avant et après, pendant son procès en 63. Et puis une figure se détache, sans doute Lydia y est-elle aussi pour beaucoup, c'est celle de Pasternak, qui est très présent à de nombreuses reprises dans les pages, qui apporte presque parfois une touche un peu comique dans le texte, parce qu'on sent qu'il se passe, nous, quelque chose entre ces deux-là, une rivalité, en tout cas de la part d'Akhmatova, en tout cas, qui a un rapport, semble-t-il, très ambigu à Pasternak, qui à la fois l'admire beaucoup et en même temps peut être d'un lapidaire en ce qui concerne ses œuvres, je pense notamment au docteur Jivago, qu'elle n'aime vraiment pas. Qu'est-ce que ce lien entre Akhmatova et Pasternak, Hélène Henry?
C'est un lien qui, au fond, ressemble beaucoup au lien que beaucoup de certains poètes de l'époque entretenaient vis-à-vis de Pasternak. Parce que Pasternak est manifestement une sorte de centre. C'est l'homme de la poésie maintenue, c'est l'homme de l'action de grâce, c'est l'homme de la vie. Et il exerce une espèce de fascination sur des poètes qui ne sont pas forcément dans le même geste d'écriture, et le geste d'écriture d'Akhmatova et celui de Pasternak sont extrêmement différents, et Lydia Tchoukovskaya le souligne, elle le dit, Pasternak c'est le poète de la vie, et il a beau faire les éléments dysphoriques, ça ne lui va pas, ça n'est pas possible, et c'est très touchant parce que Akhmatova elle n'écrit pas comme lui, mais elle l'aime envers et contre tout. C'est très touchant. Quand il meurt, on va en parler là. Quand il meurt, ensuite, Tchoukovskaya note qu'elle l'appelle de ce petit nom Borisik, le petit Boris. Ce qui est touchant quand on pense que c'est un homme qui meurt à 70 ans, qui meurt brisé. Et pour elle, il reste le chantre de la vie.
Puis aussi, faut voir que
Sophie Benesch,
sur les quatre grands de la même génération, c'est-à-dire Akhmatova, Pasternak, Mandelstam et Tsvetaeva, Après la guerre, il reste, enfin après 38-40, après la mort de Tsvetaïva, il reste plus que deux, Akhmatova et Pasternak, les deux autres. Bon, Tsvetaïva s'est suicidé, Mandelstam est mort dans un camp. Donc en fait, c'est les deux survivants. Et donc il y a une espèce de lien entre eux. Il y a un poème qui s'appelle Les voies aériennes, où en fait leurs voix se croisent par-delà le temps et l'espace, leurs voix à tous les quatre.
Mais c'est ce que note Lyudmila Tchoukovskaya dans le récit qu'elle fait de l'enterrement de
Pasternak. Alors justement, je voulais vous lire le passage. Oui. Elle raconte en détail l'enterrement de Pasternak, qui a eu lieu à Peredelkino, donc le village des écrivains, où son père Tchoukovski avait une datcha à côté de celle de Pasternak. Donc elle assiste à l'enterrement, elle est un peu malade, et elle raconte donc tout le monde qu'il y avait, la présence du KGB, et je vous lis le passage. Adossé à mon tas de poutres, je scrutais les visages. Et il y avait peu de bavardage, les gens étaient concentrés. Frida Vigdorova m'a chuchoté à l'oreille que le lendemain de la mort de Pasternak, une annonce manuscrite a été affichée dans la gare de Kiev, à Moscou, disant « Citoyen, le grand poète russe Boris Pasternak est décédé hier. Les obsèques auront lieu à Peredelkino le 2 juin à 14h ». L'affiche a été arrachée. Elle a réapparu, a été à nouveau arrachée, a réapparu encore. Frida s'est éloignée. Cette nouvelle m'avait réconfortée. Derrière moi, une voix inconnue a dit assez bas. « Voilà, le dernier grand poète russe est mort. »« Non, il en reste un autre. » J'ai attendu sans me retourner, le cœur battant. « Anna Akhmatova, me faudra-t-il aussi vivre ce jour-là ?» Donc c'est vraiment les deux
qui restent.
Ils représentaient quelque chose, hein, tous les deux.
Oui. Voilà, c'est ça, ils étaient.
Donc ça les liait, du coup ça les liait aussi. Plus ils se connaissaient depuis très longtemps.
Hein. Ce qui n'empêche pas Akhmatova d'écrire « Rien ne l'intéresse en dehors de lui-même ». Il n'est pas aussi Mandelstam qui colportait les écrits des uns et des autres par toute la ville comme un chien ferait d'un os. Boris est incapable d'écouter un poème qu'il n'a pas écrit. Lui-même.
Oui, très autocentré, c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'il y avait, entre Akhmatova et Mandelstam, il y avait une véritable
une amitié, il y avait
beaucoup
une
plus grande
tendresse profonde. Ils se connaissaient depuis 1916.
Poétiquement aussi, ils avaient.
Et poétiquement aussi. Et il faut. Akhmatova a été presque la seule à rendre visite à Mandelstam au moment de l'exil de Voronej. Et elle a écrit ce merveilleux poème sur le poète exilé dans les grandes plaines de Voronej. C'est très beau.
Et Lydia, elle ajoute, je ne crois pas que quelqu'un qui ne comprend pas Pasternak comprenne réellement Akhmatova. Comment est-ce qu'il faut entendre cette phrase?
Peut-être par... justement par écho inversé, c'est possible. Akhmatova sait dire la grande douleur de la terre russe, et Pasternak en dit la splendeur.
Alors ça, c'est pour les Russes, hein, Pasternak et puis Pushkin, vous l'avez évoqué bien sûr, qui est infiniment présent. Alors on apprend aussi au fil des pages qu'elle a vraiment beaucoup de mal avec Tourguenieff, que Tchekhov, c'est pas terrible non plus, sans compter la colère qui est la sienne quant à la façon dont Tolstoï traite Anna Karénine. Ça c'est encore autre chose. Il y a de nombreuses discussions autour du personnage d'Anna Karénine tel que maltraité par Tolstoï. Ça c'est pour les Russes.
Sinistre vieillard, elle appelle Tolstoï.
Mais on y apprend aussi qu'elle déteste, par exemple, Maupassant, dont elle juge les gros romans exécrables. Thérèse Desqueyrou, qui apparaît brusquement aussi, un livre très faux, qu'elle aime beaucoup Ulysse de Joyce, qu'elle a lu 6 fois, bien qu'un peu pornographique. Qu'elle lit Proust, évidemment, Leopardi, Hemingway, bien qu'il se soit nourri des miettes de la table de Joyce. Et sauf lorsqu'il est question de pêche, qu'elle lit Faulkner aussi sur la faim. Elle en parle aussi un petit peu. Elle qui dit donc qu'il faut se nourrir de tout, comme une mère qui allaite. Qu'est-ce que, au fond, ces lectures, son panthéon, qui est là, très présent dans ce texte, nous dit d'elle, de ce qui la nourrit, et surtout, qu'est-ce que son anti-panthéon pourrait nous dire d'elle?
Son panthéon, c'est la Bible, Sophocle, Dante et Shakespeare, c'est ça, et Pushkin. C'est ça, son panthéon, ce sont les très, très grands. Le reste, ce sont des lectures, ce sont plutôt des notations au jour le jour, des lectures qu'elle fait au moment où Tchoukovskaya note leur rencontre commune.
Oui, puis il faut aussi se dire qu'elle aimait bien, elle a pu avoir la dent dure.
Elle
aimait bien aussi les mots d'esprit,
elle aime les paradoxes. Voilà. Elle aime aborder les choses par l'envers.
Et puis. Et oui. comme je dis, une de ses amies, c'est quand même quelqu'un qui avait un sens du ridicule aussi, qui aimait bien
un sens de l'humour,
un sens de l'humour extrêmement développé, et même de l'autodérision. Donc il y a des fois
on sent pas trop là dans le texte. Hein.
Non, justement, on le sent pas tellement parce que, à mon avis, Lydia Tchaïkovskaïa n'était pas elle-même, elle avait pas
une rigolade.
Un immense sens de l'humour, donc. Elle voit Akhmatova sous son angle, avec ses yeux à elle.
Sur son socle.
Et voilà, si on lit le Nadejda Mendelstam, elle la voit déjà autrement. Oui. Et si on lit d'autres souvenirs sur elle, on la voit sous des jours complètement différents, hein, selon les personnages qui la fréquentaient.
Oui, d'ailleurs, c'est normal. Bien entendu, une femme extrêmement diverse.
Alors, on l'écoute, enfin.
Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, ты льданту диктовала страницы ада, отвечает я.
Alors, ce qu'on entend, c'est la voix, donc la voix âgée, hein, d'Akhmatova, évidemment, comme on peut l'entendre, hein, disons un extrait de La Muse. Peut-être un mot sur ce qu'on entend dans la scansion de sa voix, hein, dans sa façon très particulière de dire le poème, hein, de déclamer le poème. D'ailleurs, je ne sais pas si elle a toujours fait de la sorte, hein, ou si c'est aussi signe de l'évolution de son écriture, la façon dont elle dit les poèmes dans ses années les plus tardives, hein, là, sur ce qu'on entend, sur quoi s'appuie véritablement
C'est plutôt russe comme façon de réciter.
Qu'est-ce que ça veut dire, une façon russe de réciter?
C'est en tout cas ce que soulignait Brodsky. Hein, il disait que le seul moyen qu'elle avait trouvé pour résister au chaos soviétique, eh bien, c'était justement la scansion, la diction. Alors, il parle de lui-même quand il dit ça, mais c'est vrai aussi à entendre Akhmatova avec cette espèce de régularité, de beauté très juste et musicale de l'intonation, hein, c'est ce qu'elle donne à entendre là. Et on a dit les derniers poèmes, le grand poème, le poème sans héros et les poèmes de la fin sont tout entiers écrits en musique. Hein, ce n'est pas un hasard si en effet Shostakovich était présent à la fin de la vie d'Akhmatova et que la musique résonne dans sa poésie même.
Sophie Bénèche.
Le poème qu'on a entendu, c'était La Muse.
Oui. Vous voulez peut-être nous le lire
Vous voulez que je peux le lire en français?
Oh, mais absolument. Oui.
Je vais essayer de scander un peu comme Akhmatova. Lorsque la nuit j'attends son arrivée, il semble que la vie ne tient plus qu'à un fil. Que valent honneur, jeunesse, liberté, devant la chère visiteuse avec sa flûte. Elle est entrée, et rejetant ses voiles, longuement elle m'a dévisagée. Moi, est-ce toi qui as dicté à Dante les pages de l'enfer? Elle, c'est moi.
Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une cadence russe? Et là, je m'adresse aussi à la traductrice que vous êtes.
C'est un choix à faire. Il est sûr que Akhmatova conserve la versification traditionnelle russe, mais en la faisant tendre vers ce qu'on appelle le vers accentuel, hein, c'est-à-dire vers l'individualisation de ce rythme russe qui est beaucoup plus codifié qu'en français. Hein. Mais elle y introduit des inflexions, de petites irrégularités qui tiennent à l'intonation et qui tiennent au fait que la poésie d'Akhmatova, on l'a souvent dit, hein, c'est une poésie qui se rapproche de la voix parlée. Hein, le grand personnage d'une certaine façon d'Akhmatova, ce à quoi elle s'identifie, c'est la diseuse, hein, la diseuse ancienne, la diseuse des contes, ou même la pleurante, hein, l'orante, hein, la femme du prince Igor, hein, qui pleure sur les remparts de la ville de la vieille Russie.
Alors, du coup, par quoi passe, alors justement, alors sans parler de transgression, hein, mais par quoi passe justement cette façon de déranger un tout petit peu le classicisme?
Léger déplacement des accents. hein, de l'accent.
Oui, ça peut être des enjambements, ça peut être des déplacements d'accent.
Un enjambement discret.
C'est à la fois dans la musique et dans Sophie le thème. C'est-à-dire, on peut avoir des vers extrêmement majestueux et puis brusquement quelque chose de très concret.
Voilà, très parlé, comme si elle jetait une parole. C'est très, elle le disait elle-même d'ailleurs, c'est très très différent de ce que faisait Tsvetaeva ou de ce que faisait Mayakovsky, c'est-à-dire qui pratiquait le heurt des mots. Ça m'a beaucoup frappé à propos de, parlant de traduction, la traduction dans le sous-sol de la mémoire, le dernier vers, mais où est ma maison, où est ma raison. La traduction française sonne merveilleusement bien dans cette espèce de choc des deux mots. Il n'est pas là en russe. Donc где дом мой, где рассудок мой. Et Akhmatova, c'est vrai que chez elle, il y a la musique, mais il y a toujours ce qu'elle appelle la justesse du mot.
Alors c'est ça qui rend la chose compliquée, Sophie Benesch.
Est-ce que je peux vous lire un poème sur qui commence « Je n'ai que faire des odes »
Ben alors on va l'écouter.
Все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене, и стих уже звучит задорен, нежен,
Je n'ai que faire des odes de leurs armées, ni du charme capricieux des élégies. Pour moi, tout dans le vers doit mal tomber. Rien ne doit être comme il faut. Si vous saviez de quel débris se nourrit et pousse la poésie, sans la moindre honte, comme les pissenlits jaunes, comme la roche ou la bardane au pied des palissades. Un cri de colère, l'odeur du goudron frais, le mystère d'une tache de moisie sur un mur, Et voilà qu'un vers teinte, malicieuse et tendre, pour votre joie et pour la mienne.
Merci. Est-ce que c'est ça, justement, qui rend compliquée la traduction d'Akhmatova ? Sophie Benesch, je crois que c'est dans la préface au texte de Nadezhda Mandelstam, vous parlez justement de cette traduction si difficile d'Akhmatova par rapport, paradoxalement, hein, par rapport à une Tsvetaeva, par exemple, qu'on imagine infiniment plus acrobatique à traduire, justement, à cause de ces heurts, alors que chez Akhmatova, avec ce laconisme, d'une certaine façon, cette sobriété, cet apparent classicisme qui n'en est pas un, finalement, c'est là que ça devient plus compliqué.
Il n'y a pas que moi qui dis ça, hein, parce que même Tchoukovskaya le dit dans son texte. Elle dit que la poésie d'Akhmatova est beaucoup plus... elle est un peu comme celle de Pushkin, c'est-à-dire ce qui est très simple et en apparence classique, où est beaucoup plus difficile à traduire que du Mayakovsky ou quelque chose qui est beaucoup plus...
Elle dit, Lydia, justement, elle dit, on l'écoute et on a l'impression qu'il n'y a ni mots, ni maître, ni rime, ni rythme, mais simplement, simplement, l'âme elle-même qui parle, libérée de la forme miraculeusement.
Vous vous rendez compte ?
Voilà.
Vous traduisez. Elle est arrivée à faire ça en russe,
elle arrive à inclure. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle arrive à inclure dans des poèmes extrêmement brefs ou dans des strophes brèves, même tout un monde entier menacé par l'apocalypse. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Il y a ce poème de 1914, hein, la veille de la guerre, que j'aurais envie de lire quand je l'avais un peu traduit. Comment peux-tu regarder la Neva? Comment oses-tu monter sur ces ponts? Depuis que tu es apparu, on me dit triste. On a raison. Des anges noirs, les ailes piquent. Tout proche est le jour de colère. Des feux fleurissent écarlates comme des roses sur la neige. C'est d'une simplicité incroyable et en même temps, c'est une épopée. Ah, c'est un monde entier. Ah, il y a là la ville. Ah, il y a là l'apocalypse. Il y a là la menace. Et en même temps, c'est une séparation entre un homme et une femme, hein, qui se disent adieu dans un paysage. C'est ça qui est étonnant chez Akhmatova, c'est qu'elle part de l'intime et elle part toujours du jeu tout de même, de l'intime. Elle part en effet généralement d'une séparation et son regard s'élève sur le fleuve, sur la ville, pour ensuite aller plus loin encore dans la Russie, en arrière dans le temps, hein, et dans le pour finir dans le monde entier. Et c'est ce qui explique la genèse et l'écriture de ce qui sera le chef-d'œuvre et le couronnement de son œuvre, le poème sans héros.
C'est vrai qu'elle part du jeu pour aller jusqu'au nous. Voilà, petit à petit, au fil des années, sa voix personnelle est devenue ce qu'elle appelle la voix de tout un peuple. Puisqu'elle dit elle-même à propos de ce, comme tu dis, du poème sans héros, c'est qu'en fait, c'est pas elle qui l'a écrit, le poème sans héros. C'est toutes les voix qui parlent à travers elle, toutes celles de ses amis, toutes celles des vivants et des morts. Oui. Puisque pour Dieu, les morts n'existent pas, il n'y a pas de morts. Entre les vivants et les morts, il n'y a pas de...
Dieu conserve tout. Deus conservat omnia. Oh, c'est ce qu'elle... Et elle dit aussi que ce sont non seulement elle parle pour tous, mais ce sont ses lecteurs qui ont écrit ce poème. Hein, ce poème qu'elle considère d'ailleurs comme une entité vivante et une entité féminine, au point que moi, je sais pas toi Sophie, mais moi en parlant, j'ai toujours envie de parler de ce poème au féminin, hein, de dire comme en russe poème, la poème, hein, parce que pour Akhmatova, c'est une autre elle-même, son double, on le dit, qui vient la harceler, qui en 1940, en 1952-53, ensuite en 1962, tout à fait à la fin, revient, exige d'être transformé, commenté, modifié, de revenir toujours. Hein. Et comme les vivants reviennent dans la vie, les morts reviennent dans la vie des vivants, hein, puisqu'ils sont là avec eux.
À quel moment de son parcours d'ailleurs va se jouer ce glissement du jeu au nous
même avant le Requiem. que vous avez lu en introduction, le poème sur le miel sauvage, c'est déjà c'est un poème qui date de 34 si je ne me trompe pas, hein, et qui déjà élargit le champ et c'est un poème sans jeu, c'est un poème qui dit nous, mais nous savons que le sang n'a d'odeur que du sang. Hein, c'est le nous apparaît déjà là, et ensuite à partir de 38, au moment où le requiem émerge dans l'écriture
de en 1940, je voulais juste le début. Depuis l'an 1940, je regarde tout comme du haut d'une tour. C'est comme si de nouveau je disais adieu à ce que j'ai quitté depuis longtemps, et qu'ayant fait le signe de croix, je m'engageais sous des voûtes sombres. Voilà. Elle s'engage dans ce poème
qui va être, dont elle dit que c'est un poème sans couleur. Voilà, c'est un triptyque, hein, c'est un triptyque comme un tableau, un triptyque où dans la première partie elle fait revivre et revivre réfracté, hein, comme dans un miroir de la salle de la maison de la Fondanka où elle habite à ce moment-là, elle voit apparaître tous les fantômes de l'année 1913 et du temps qui a suivi. Hein, la deuxième partie est une partie qui est consacrée à une espèce d'auto-commentaire sur ce qu'elle a écrit et est en train d'écrire, et où elle introduit du contemporain, hein, les camps, déjà il y a des allusions, hein, et puis la troisième partie est une partie qui se dresse devant Saint-Pétersbourg dévasté. On voit, c'est ça qui est dit au début, et tout le destin de la Russie avec les camps, avec la route des forçats qui allait vers le bagne est présent, avec son destin personnel qui est le destin de toutes les femmes de déportés, toute la répression, enfin tout le féroce XXe siècle, hein, dont parle Akhmatova.
Et qui commence là d'ailleurs, hein, vous parliez donc de cette première partie du poème Sans héros, qui revient sur, sur 1913, hein, elle fait débuter le siècle en fait, hein, là au fond, en 13 ou en 14.
Avec la culpabilité d'avoir survécu.
Ouais. Alors justement, avant, quand je vois que vous vous apprêtez à lire, juste avant que vous lisiez ce passage,
juste un petit
sur cette année 1913, hein, sur laquelle elle revient. Revenir sur 1913, c'est revenir sur quoi? C'est dire quoi de cette génération-là?
D'abord sur la veille de la guerre, la veille des horreurs, la veille des départs, la veille des conflits, et puis revenir sur une jeunesse qui a été heureuse, qui a été comblée, qui a été compliquée, qui a été vécu de façon passionnée, même quelquefois tout à fait passionnée, voilà, hein, c'est ça, avec tout ce, et qui était empli, qui était habité par des gens qui ne sont plus là, hein, les uns comme le Alcide Pouchkine, hein, les uns sont morts, les autres sont loin. Et s'ils sont loin, ça veut dire en Sibérie, hein, ça veut dire, ou en Occident, hein, ou qui à New York, qui à Tashkent, comme elle le dit au moment de son évacuation.
Et la question de la responsabilité de cette génération-là dans le destin du pays se joue aussi.
Ce n'est pas une responsabilité. Je ne crois pas qu'elle proteste quand on dit que c'est une mise en question de toute cette jeunesse. Me semble-t-il, hein. C'est la destinée d'une génération à qui on a volé sa vie. C'est ce qui est dit dans la troisième élégie. Hein. La culpabilité, je crois qu'elle est plutôt dans le fait d'avoir survécu, et puis dans le fait il y a eu des malheurs, il y a eu des suicides, il y a eu des disparitions, et toutes ces choses-là étaient comme des espèces de prémonitions du malheur collectif qui s'annonçait. Donc il y a beaucoup plus de relations entre l'année 13 et le reste du siècle que l'on ne croit. C'est beaucoup moins en opposition.
Pardon, Madame Henri, je vous laisse reprendre votre livre parce que je vous ai arraché à votre lecture.
Non, j'avais juste envie de lire dans la traduction de Jeanne Rude, hein, qui a été des première à introduire Akhmatova en France, hein, on peut dire son nom. J'avais envie de lire un petit passage du troisième chapitre de la première partie, qui, d'une certaine façon, dit ce que je viens d'essayer d'expliquer. Hein. Et toujours dans la touffeur glaciale, menaçante et lubrique de l'avant-guerre, habitait quelques futurs grondements. Alors on l'entendait plus sourdement. Il n'alarmait qu'à peine les esprits et se perdait dans les congères de la Neva. Comme dans le miroir d'une terrible nuit, l'homme s'enrage et ne veut pas se reconnaître lui-même. Entre-temps, par lequel légendaire, s'avançait le XXe siècle, pas celui du calendrier, le vrai. C'est de ça qu'il s'agit dans le poème Sans héros, le vrai XXe siècle, et puis ce retour, non pas d'une apocalypse, mais des apocalypses. C'est ce qu'elle dit. Le requiem est sous le regard de l'étoile absinthe. Hein, c'est très beau.
Sophie Ménèche, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, en fait, j'aurais juste voulu lire un petit poème.
Oui, beaucoup de lectures.
Qui date de 1915, hein, mais qui s'appelle Prière. Et qui est prémonitoire, en fait, qui est un poème prémonitoire. Donne-moi d'amères années de maladie, l'étouffement, la fièvre, l'insomnie. Prends-moi et mon enfant et mon ami, et le don mystérieux de poésie. C'est ainsi que je prie durant ta liturgie, après tant de journées accablantes, pour que les nuées noires sur la sombre Russie deviennent un nuage de gloire éblouissante. C'est terrible, ce poème.
Oui.
Et Akhmatova, je crois que c'est Tsvetaeva lui avait dit, comment vous avez pu écrire ça? Donne-moi d'amères années de maladie, prends-moi et mon enfant et mon ami. Oui. C'est ainsi que j'ai pris en 1915. Oui.
Mais c'est tout de même une poésie de la rédemption. Il y a quand même une rédemption chez Akhmatova. Un des mots essentiels chez elle, c'est le mot clarté. Pourquoi est-ce que la clarté est quand même là? La clarté est là, probablement pour des raisons. Ça tient à la spiritualité d'Akhmatova. Mais elle. Même dans le poème sans héros, elle revient sur la possibilité d'une rédemption et d'une élévation. Non, c'est peut-être ça, effectivement, qui fait sa particularité par rapport à d'autres.
Est-ce que l'une et l'autre, ou l'une ou l'autre, connaîtriez un poème d'Akhmatova par cœur? Parce qu'il est beaucoup question de par cœur, de mémoire,
Je sais par cœur le petit poème que j'ai lu tout à l'heure, « Comment peux-tu monter sur les ponts ?» parce qu'il est bref, et que je ne sais pas pourquoi, mais je le sais par cœur.
Est-ce que vous voulez bien nous le dire?
« Как ты можешь смотреть на Неву? Как ты смеешь сходить на мосты? Я недаром печальный слыву. С тех пор, как привиделся ты. Черных ангелов крылья остры. Скоро будет последний суд, и малиновые костры, словно розы в снегу, цветут.
Merci.
Juste deux petites strophes. Hein?
Non, moi je connais juste une élégie. Есть три эпохи у воспоминаний. Первая, как бы вчерашний день. Душа под сводом их благословениями, и тело в их блаженстве тьмы. Еще не замер смех, струятся слезы, пятно чернильни стерты со стола, и как печать на сердце поцелуя, единственный, прощальный, незабвенный.
Merci à toutes les deux, Sophie Benesch et Hélène Henry. C'est la fin de cette émission que je vous laisse conclure entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Bon, c'est comme d'habitude, hein, y a plein de poèmes que j'aurais voulu lire.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, on a envie d'en entendre plus. Et Akhmatova fait cet effet qu'elle avait d'ailleurs sur Tchoukovska, à savoir qu'on a envie, a envie toujours d'en lire plus, peut-être d'en traduire plus, d'en entendre plus. Ça doit être à ça que tient cette fascination à retardement qu'elle exerce. Oui, il y a des poèmes, est-ce qu'il y en a un, toi, que tu aurais envie de... Moi, il y en a plein dans le livre, d'ailleurs, ce que tu as retraduit. Il y en a beaucoup qu'on aurait eu envie d'entendre et qu'a bien entendu Tchoukovskaya.
En fait, dans le livre de Tchoukovskaya, d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que à certains moments dans le texte russe, il y avait c'était juste un vers.
Oui.
Et plusieurs fois, pas systématiquement, mais j'ai mis plusieurs vers. Parfois le poème entier qui n'était pas dans le texte.
Voilà, pour qu'on le reconnaisse.
Parce que à la limite, des Russes lisant ça en entendant un vers, ils connaissent déjà le poème, mais le français ne le connaissent pas.
Oui, nous c'est pas du tout le cas.
Pareil pour des citations de poèmes de Pasternak. Donc j'espère que ça donnera envie de lire Akhmatova et puis aussi
de lire ce livre.
Parce que Lydia Tchoukovskaya, non seulement c'était une connaisseuse et une femme extrêmement intelle, mais elle a une façon d'écrire très vivante.
Oui.
C'est jamais ennuyeux. Et pourtant, on pourrait croire, je vais voir Akhmatova, elle m'a dit ça. Pas du tout, c'est absolument
pas
ennuyeux.
Non, pas du tout. Et en effet, c'est tout à fait frappant de voir à quel point elle passe, elle parle en continuité de la vie quotidienne, des objets de la vie quotidienne, des poèmes, des affects, des autres. Tout ça, c'est en continuité. Avec... au-dessus, je sais pas si on l'a senti, tout de même, toujours, cette espèce de surveillance occulte du pouvoir qui est là derrière, qui est là derrière le livre, qui est présente. Et tout ça est mêlé dans quelque chose de très vivant.
Ouais, c'est ça, surtout. C'est vrai que ça se lit.
Et c'est ça qui est essentiel, c'est précieux d'avoir, enfin, les notes de la fin, les notes de 62-65. Ouais. Ça, c'est absolument précieux, précieux, puisque on pouvait pas les lire jusqu'ici. Ouais. Maintenant, on peut les lire.
Ouais, exactement.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. À la technique aujourd'hui, Catherine Déréter, à la préparation Thierry Beauchamp et à la réalisation François Connac. Vous trouverez toutes les actualités de Sophie Bénèche et Hélène Henry sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. Et j'ajoute encore un changement de géographie, que l'Institut du Monde Arabe à Paris fait sa nuit de la poésie. Demain, toute la nuit donc, mais tout de suite, c'est l'heure de Nicolas Martin et de sa méthode scientifique.